Nous laissons le chapitre 4 parce que nous ne pouvons pas tout voir et j'ai choisi pour ce matin le commencement du chapitre 5. Chapitre 5, versets 1 à 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Ce passage, vous l'avez sans doute lu, pense bien que beaucoup de vous l'ont lu et relu, même à l'occasion de leur lecture. Il faut lire la Bible, évidemment, et ce sont des textes sur lesquels il est bon de revenir, mais vous ne vous êtes peut-être pas douté des difficultés qu'il y a dans ce passage. Il y a en effet des difficultés parce que certaines déclarations ici de l'apôtre sont amphibologiques, c'est-à-dire prêtes à des interprétations qui ne sont pas toujours très assurées, qui sont quelquefois un petit peu dans l'équivoque. Par conséquent, ce n'est pas facile. Vous savez, il y a des passages dans la Bible qu'il faut bien étudier. Il faut justement que ceux qui enseignent étudient bien, n'est-ce pas, et fassent nécessairement une certaine exégèse pour être assurés que ce qu'ils vont retirer du texte est bien la pensée. Nous voulons la pensée vraiment. Je dis de l'apôtre qui est inspiré, qui nous livre la pensée de l'esprit, et il faut retrouver cette pensée. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi. Je dis cela parce que, j'ai vu dans certains livres, on utilise les épîtres de Paul pour leur faire dire souvent ce qu'elles ne disent pas, et moi je trouve ça absolument désastreux. L'enseignement biblique, c'est quelque chose de grave, chers amis. Ceux qui enseignent seront plus sévèrement jugés, est-il dit dans la parole. La tente où nous habitons, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, eh bien là, il n'y a pas de doute, la tente, c'est notre corps. Notre corps qui est désigné ainsi, notre corps mortel, et qui est comparé à la tente du voyageur dans le désert. C'était d'ailleurs là une comparaison habituelle parmi les apôtres. J'en prends à témoin la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 13 et 14. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Là, nous comprenons bien que l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, a reçu un avertissement du Seigneur. Cet avertissement, d'ailleurs, il est dans la fin de l'évangile de Jean, selon lequel Pierre quitterait, n'est-ce pas, subitement, c'est-à-dire par une mort qui honorera le Seigneur, qui sera un témoignage, une mort de martyr, il quittera cette terre, il quittera son corps. Donc, vous voyez bien ici que le mot « tente » s'applique au corps mortel qui est le nôtre, selon une figure. Et Paul va opposer la fragilité de cette tente, c'est-à-dire de notre corps, fragilité dans ce monde, la fragilité qui est déjà enseignée d'autre part dans la Bible. Notre corps est quelque chose d'infiniment fragile, et nous voyons cela aujourd'hui, n'est-ce pas, quand nous apprenons toutes sortes de cataclysmes et d'événements dramatiques où des gens sont morts, ont été brûlés, ont été blessés, etc. Vous voyez les accidents sur la route, tout ça, comme notre corps est fragile, les maladies qui saisissent certains et qui les emportent, n'est-ce pas, notre corps est infiniment fragile. Et nous avons besoin de toute la protection de Dieu sur lui. Mais cette fragilité de tous sens demeure. Elle demeure. Et Paul l'oppose au sanctuaire céleste qui, lui, une demeure éternelle, sanctuaire céleste, et qui est l'ouvrage de Dieu et qui n'est pas fait de main d'œuvre. Bien sûr, ce sanctuaire, c'est le tabernacle. Tabernacle, c'est un mot qui signifie habiter en commun. Tabernacle, n'est-ce pas, c'est habiter en commun, tabernacler, s'il y avait ce verbe, on dirait tabernacler, habiter en commun, Dieu et les hommes habitant en commun. C'est ça, le tabernacle. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui reçoit ses créatures pour habiter avec elles. Alors, c'est ce qui fait dire à Paul que, à la place de notre corps mortel, cette tente que nous allons laisser sur la terre, nous allons trouver un domicile. Ce domicile, il est vaste, c'est il ne fait pas allusion, par conséquent, au corps de résurrection qui remplacera le corps mortel. Il fait allusion à ce grand sanctuaire, cette grande demeure où nous serons avec Dieu. Dieu habitera avec les hommes, comme le dit l'Apocalypse. Et ce domicile n'a pas été fait de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, dans ce corps mortel, désirant revêtir notre domicile céleste. Il doit toujours y avoir, dans le chrétien, un soupir, une aspiration qui ne s'arrête pas, qui ne se dément pas. Si elle est absente, alors, c'est une retombée vers des aspirations basses, vers des affections, des attachements aux choses de la terre. S'il n'y a pas d'attachement aux choses d'en haut, il y aura des attachements aux choses de la terre. Donc, nous gémissons dans cette tente, c'est-à-dire, nous avons des occasions de souffrir moralement, physiquement, par persécution aussi. Cela arrive, n'est-ce pas, quand ce ne serait que des vexations que le monde ne nous ménagera pas. Nous gémissons en étant dans ce corps mortel et nous désirons revêtir le domicile céleste. Nous savons que dans le domicile céleste sera le repos. Et n'est-ce pas, le repos de nos œuvres, de nos luttes, de nos combats, et ce sera la pleine jouissance de la félicité qui se trouve auprès de Dieu, dans l'entourage de Dieu. Nous savons, cela montre qu'il y a une certitude du chrétien fidèle, d'être dans ce sanctuaire céleste qui est éternel. Ce sanctuaire dans lequel le Seigneur Jésus est entré, comme le dit l'Épître aux Hébreux, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, et il nous a préparé une demeure. Nous savons, il doit y avoir donc chez le chrétien fidèle une certitude, mais il y a une réserve. Le verset 3 dit en effet, « Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus ». Et ce verset est l'un de ceux qu'il est très difficile, dont il est difficile de serrer le sens de près, n'est-ce pas ? Parce que il donne lieu à une certaine exégèse particulièrement délicate dans le grec même. Enfin, la traduction, je me suis assuré que la traduction que nous avons ici, malgré quelques autres traductions différentes, est bonne. Elle est la bonne. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Certains auteurs ont pu penser qu'il s'agissait là d'être vêtus de notre corps maintenant et de ne pas être trouvés sans le corps. Enfin, ils sont allés chercher un tas de choses, ce qui n'est pas exact. La véritable pensée de l'apôtre, la voici. Il n'y a pas une pleine assurance du salut du fait seulement qu'il y a une résurrection pour les croyants. Parce que Jésus est ressuscité, il y a une résurrection, et ce n'est pas parce qu'il y a une résurrection que les croyants ont une assurance. Si, il faut cela, mais pas cela seulement, il faut quelque chose d'autre. Et ce qu'il faut d'autre, c'est qu'ils veillent à être trouvés vêtus ou revêtus et non pas nus. C'est cela. Il y a une résurrection pour tous qui attend tous les croyants, c'est vrai, mais il faut que chacun d'eux veille bien à être revêtu et non nu. Nous allons voir revêtu de quoi. Nous allons d'abord lire dans l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 18. C'est le Seigneur Jésus qui parle à une église, l'église de Laodicée, et qui à travers elle parle aux églises de tous les temps, de tous les lieux, et nous parle à nous par conséquent. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Il ne s'agit plus de gratuité là. D'acheter. Il s'agit du chrétien. Voyez-vous la différence entre le message qui va au chrétien et le message qui va à l'inconverti? Voyez, à l'homme du dehors. Hein? À l'homme du dehors, on lui dit c'est gratuit, mon ami. N'a rien à apporter, ni argent, ni mérite, ni quoi que ce soit. Viens avec ta foi, c'est tout. Laisse ta foi s'exercer. Mais au chrétien, achète de moi. Voyez comme le message est différent, n'est-ce pas, déjà? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Acheter du Christ, cela par un combat victorieux, cela par une piété qui possède toute la force intérieure qui la fait réelle, n'est-ce pas ? Une foi, une piété réelle et qui se maintient, achetée du Seigneur Jésus, des vêtements blancs, notamment des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité, la honte de la nudité, ce fut la honte d'Adam et d'Ève, qui se virent nus après leur désobéissance. Ils se virent nus. Ils étaient nus. Auparavant, ils étaient vêtus de la gloire de Dieu et ne pouvaient pas se rendre compte que leur corps avait cet aspect-là. C'est ce que veut dire la Genèse, n'est-ce pas ? Ils virent qu'ils étaient nus, c'est-à-dire ils étaient curieusement transformé, leur corps apparaissait comme ça, n'est-ce pas, dans cette forme. Mais c'est extraordinaire, ils n'étaient pas comme ça précédemment. Ils étaient, mettons, comme les anges, si vous voulez, revêtus de robes blanches qu'ils n'étaient pas achetés, n'étaient pas allés acheter chez le fripier du coin, n'est-ce pas? Mais ces robes éclatantes dont sont vêtus les anges, par exemple, ce vêtement que possédaient aussi Élie et Moïse sur la sainte montagne de la transfiguration, eh bien ainsi étaient Adam et Ève. Ils se virent nus. Alors, le péché les a fait nus dans un sens physique, comme dans un sens spirituel. D'ailleurs, le physique et le spirituel marchaient ensemble et marcheront toujours ensemble après. Et ils devraient, dans l'Église, marcher aussi ensemble. Bon, c'est une question peut-être déjà incidente, un peu plus délicate, je passe, mais disons bien que cette nudité dont parle le Christ ici est une nudité spirituelle, bien sûr, mais qui prend prétexte, qui prend occasion de la nudité d'Adam et d'Ève après le péché. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, il faut être vêtu de quoi? De vêtements blancs. C'est très beau de chanter comme nous le faisons. Un vêtement blanc, bah, nous y mettons tout notre élan, là, notre cœur, nous levons les yeux, les bras vers les cieux, pas bah, très bien tout ça. Eh bien, mais c'est beaucoup mieux que notre cœur s'informe si véritablement il est vêtu, lui, de vêtements blancs. Ah, ne chantons pas ça simplement pour nous distraire et pour avoir ensemble l'occasion de chanter d'un même cœur, d'un même accord. Mais réfléchissons à cela. Les vêtements blancs, c'est le Seigneur Jésus qui a dit cela. Il faut donc être revêtu de la robe des noces. La robe des noces, une certaine parabole de Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu, au verset 22, vêtu des noces, cet homme qui n'avait pas été trouvé dans la salle des noces, vêtu de la robe des noces, a été jeté dehors. Vêtu de la robe des noces, vêtu, revêtu de Christ, dira l'Épître aux Galates. Revêtu de Christ, revêtu intérieurement de ses sentiments, sentiments qui étaient en lui, revêtu de sa justice. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, au verset 10, nous parle de la robe de justice. Dans la version Darby, la robe des justices. Toutes les justices qui sont là et qui nous sont données par la justification. La justification nous donne une robe de justice. Mais cette justification, le chrétien doit la maintenir. La maintenir. Et comment cette justification est-elle maintenue? Par la sanctification, qui est aussi une œuvre du Seigneur. Mais qui ne peut se faire que selon la foi, et selon quelque chose même de plus, selon l'amour. S'il n'y a pas une foi à l'œuvre, s'il n'y a pas un amour puissant vers le Seigneur, il n'y aura pas pleine sanctification. Alors, la sanctification, je le répète, maintient le fruit de la justification. Aux gens du dehors, nous leur proposons d'être justifiés. Ils ne le sont pas. Mais nous, nous l'avons été. Voilà la grande différence. C'est là que se trouve la charnière entre les auditeurs du message évangélique et les auditeurs du message chrétien. Ils ont cela été justifiés. Et il faut leur dire, attention, vous n'avez pas été justifié pour que votre vie retombe dans les bas étages, retombe dans ces villes sentiers où elle se traînait précédemment. Vous avez été justifié pour rester justifié, pour être les saints de Dieu. Alors, il faut maintenir, et il faut veiller à maintenir cela. Par la sanctification qu'opérera l'Esprit, sanctification de l'Esprit, c'est lui qu'il fera, il sanctifiera votre être tout entier, esprit, âme et corps, et il faut veiller à cela. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le salut, c'est justification plus sanctification égale vie éternelle. Mais justification égale vie éternelle, c'est faux. C'est vrai pour une minute, la minute peut-être de la conversion, mais il faut que ça reste vrai en y ajoutant la sanctification. Revêtu de Jésus-Christ, de la robe des justices. Sans ce vêtement de justice, de sainteté, qui est la vie même et la gloire, il n'y aurait pas de part à la résurrection des justes. Il n'y aurait pas de part à la résurrection des justes, mes amis. Il faut bien que nous ayons cette certitude en nous. Il nous faut constamment ce vêtement de justice. Si quelque chose le ternit, le tache, le souille, vite aux pieds du Seigneur, l'intercesseur, avocat dans le ciel, avec un cœur brisé, il faut réparer cela tout de suite. Il faut tout de suite laver cette tache. Et nous en avons peut-être au cours de la vie chrétienne besoin plus ou moins fréquemment, mais besoin, et puis besoin souvent pour une suite même d'action, de parole, ou pour un comportement général qui n'est pas bon, qui n'est pas élevé. Nous avons besoin du Seigneur aussi pour cela, n'est-ce pas? Enfin, c'est une lutte, c'est un combat, le Seigneur est là, l'intercesseur, pour nous soutenir, mais à condition que nous allions à lui. Et à condition, n'est-ce pas, que nous marchions dans la lumière, pour que son sang nous purifie de tout péché. Il faut bien penser aussi ceci, c'est que ceux qui seront sauvés et qui entreront dans l'éternité, dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui déjà là sont dans la vie terrestre, dans leur vie terrestre, dans un état d'âme, un état spirituel qui les met en quelque sorte de plein pied avec le royaume de Dieu. Ils sont sur le palier, ils sont là, prêts, n'est-ce pas? Ils ont le royaume de Dieu, disons, dans le cœur, en réalité spirituelle, n'est-ce pas? Ils maintiennent cette réalité spirituelle en eux, mais ils sont là, et il ne faut pas dire, n'est-ce pas, nous avons un certain état spirituel ici sur la terre, et puis quand viendra le Seigneur pour nous faire entrer dans l'éternité, dans la demeure de Dieu, nous faire entrer dans notre domicile céleste, alors là il y a un bon à faire et il faudra tout de suite obtenir un état particulier. Nous devons maintenant avoir cet état et être en face, de plein pied, avec l'entrée du royaume de Dieu. Pierre nous parle, n'est-ce pas, de cette entrée dans le royaume de Dieu qui nous attend. Eh bien, il faut être de plein pied, préparé pour cela. Paul exprime le désir formel du chrétien d'être revêtu de Christ, afin que déjà en ce monde où nous souffrons, ce qui est mortel en nous, car il y a du mortel tant que nous avons ce corps, nous avons en nous du mortel, nous avons une puissance de mort. La loi de mort est encore là, attachée aux fibres de notre corps et de notre âme. C'est l'esprit seul qui permet de dominer le tout. Eh bien, Paul nous dit donc que ce qui est mortel en nous sera englouti dans la vie. C'est-à-dire, sera surpassé par la vie, dominé par la vie, et en définitive comme digéré par la vie. La vie va engloutir, le digérer ce qui est mortel. Et il y a cette œuvre de digestion en nous, n'est-ce pas, du mortel, et je dis bien dans notre âme, n'est-ce pas, venant de notre corps, puisque notre âme est... Nous l'avons bien dit, n'est-ce pas, l'autre jour, l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. La venue de l'esprit dans le corps humain a fait apparaître cette âme vivante, mais elle est encore actionnée, sollicitée par ce corps qui est mortel. Et alors elle a encore en elle souvent des apparitions de velléités mortelles, et il faut que l'esprit, lui, domine cela et engloutisse. La purification, en somme, de notre âme se fera par une digestion. Une digestion peut-être progressive de ce qui est mortel, des puissances encore de la mort qui peuvent être là en nous, n'est-ce pas? Elles vont être digérées pour être complètement supprimées. Engloutir ce qui est mortel par la vie, c'est-à-dire par la puissance de la vie de résurrection. Ça, c'était le verset 4, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Nous ne voulons pas être nous laisser dépouiller de la robe de justice. Nous voulons au contraire la revêtir, cette robe, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Si nous sommes revêtus de Christ, il y a là, à pied d'œuvre, en nous, la puissance d'une vie impérissable qui digère et engloutit la mort. Le verset 5 nous dit, « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. » Il ne s'agit pas ici, je le précise tout de suite, du baptême du Saint-Esprit, il s'agit de la sanctification que l'Esprit de Dieu accomplit. C'est Dieu qui nous a formés pour cela, c'est-à-dire qui nous a préparés pour cela, et qui nous prépare toujours pour que cet engloutissement des vestiges, de ces vestiges de mort, cet engloutissement, cette digestion continue de se faire efficacement. Il nous prépare par la sanctification de l'esprit, c'est-à-dire sanctification de incessante de notre esprit qui, je vous le dis, n'est-ce pas, domine l'âme et purifie l'âme et purifie même le corps aussi, votre être tout entier. Et ce don de l'esprit qui sanctifie, ce don de l'esprit sous forme d'art, hein, ce don de l'esprit qui sanctifie est le seul garant de notre espérance. C'est lui qui nous a formés pour cela. Et l'apôtre va sonner maintenant une petite cloche, la cloche de la confiance. Parce que dès qu'il nous a un petit peu fait trembler comme ça, qu'il nous a avertis, et il faut que l'Écriture nous avertisse, alors tout de suite, il rappelle quand même la confiance, n'est-ce pas, pour ne pas nous décourager. Et nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Pas de découragement, au contraire. Il faut rester plein de confiance en l'œuvre de Dieu par la sanctification de l'Esprit agissant en nous, œuvre à laquelle nous nous prêtons. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Seigneur. Mais il ne faut pas dire, oh ben, je laisse le Seigneur faire. Et moi, je me croise les bras. Moi, je me mets dans un fauteuil, n'est-ce pas, et j'attends. Oui, mais ton fauteuil, il pourra se retrouver en enfer, ton fauteuil, n'est-ce pas? C'est pas ça, n'est-ce pas, qu'il faut faire. Il faut s'y prêter. Il ne faut pas être oisif, nous dit l'Écriture. N'est-ce pas, oisif? Ah non, parce que le Seigneur nous veut intelligents. Il veut que ce soit avec une sagesse et une intelligence qu'il fait affluer en nous, que nous saisissions sa sanctification et son salut. C'est lui qui le fait, parce que nous ne pourrions pas le faire. N'est-ce pas? Et lui seul peut faire une telle œuvre. Mais il faut que nous nous y prêtions, bien entendu. Hein? Nous nous offrons à cette sanctification, comme les fleurs, les plantes s'offrent au rayonnement du soleil. Nous nous offrons. Et cette confiance Nous devons bien sûr l'avoir et la conserver, bien que nous nous sachions, comme dit Paul ici, éloignés du Seigneur, en demeurant dans ce corps, éloignés du Seigneur. Il ne méconnaît pas ce qu'il dit par ailleurs, à savoir que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, l'Esprit, c'est le Seigneur. L'Esprit, c'est le Père et le Fils. Alors, Paul n'ignore pas cela. Il ne revient pas non plus sur cela. Mais ce qu'il veut nous dire ici, c'est que nous sommes éloignés du Seigneur visiblement présent. Nous sommes destinés à être avec lui comme les apôtres étaient avec lui pendant qu'il était sur la terre. Et mieux encore, puisque là, n'est-ce pas, tout le monde sera dans la gloire. Alors, nous sommes destinés à cela. Notre désir, précise Paul, est d'émigrer de ce corps, sortir de ce corps, pour rejoindre le Seigneur dans la demeure céleste. Et en ce moment, nous sommes séparés de lui, d'une certaine manière, étant donné que nous marchons par la foi. Et non par la vue. Nous n'avons pas la vue. Ce qui nous manque, c'est la vue du Seigneur. Or, elle est prévue, la vue du Seigneur. Il y a des gens tellement spirituels qui voudraient éliminer tout ce qui a un aspect physique. Mais c'est une erreur, je viens de vous le dire, n'est-ce pas? Nous aurons la vue du Seigneur, nous sommes destinés à cela. Nous le verrons tel qu'il est. Et il sera pour toujours avec nous. Dans ce corps glorieux où Jean l'a vu. Et nous nous aurons revêtus à ce moment-là même aussi le corps glorieux, n'est-ce pas? Le corps qui ne meurt plus, le corps céleste, le corps spirituel. Alors, c'est là quelque chose que nous n'avons pas encore maintenant. Maintenant, nous sommes obligés de marcher par la foi, sans le voir. Et Pierre nous dit, vous aimez un Seigneur que vous ne voyez pas. Ben, il faut l'aimer, n'est-ce pas? Bien sûr, de cette manière, et marcher par la foi. Alors, il nous faut une grande foi et une confiance, la confiance en Dieu. Et jusque-là, eh bien, que ferons-nous? Nous nous préoccuperons activement, par foi et par amour, de lui être agréable. Le Seigneur Jésus faisait tout ce qui était agréable au Père, nous avons le même souci de lui être agréable en toutes choses, c'est-à-dire en faisant sa volonté ponctuellement, non pas par à-coup. Voilà ce que je veux dire, par des à-coups. Hein? Voyez-vous, venant à certains moments, n'est-ce pas, lorsque nous sommes pris par une flambée de foi, hein, alors là, on ferait n'importe quoi pour le Seigneur, oui, pendant 2 heures ou pendant une demi-journée, et puis alors après, ça retombe. Non, il faut ponctuellement et constamment faire sa volonté avec discernement et avec amour. Pour voir l'invisible et pour être vainqueur, il nous faut accepter la condition présente qui est celle d'une marche par la foi. C'est la condition actuelle. Nous sommes engagés dans une marche par la foi, il n'y en a pas d'autre. Tous ceux qui cherchent la vue, n'est-ce pas, se méprennent et ils risquent même de porter atteinte à leur propre foi. Ne cherchons pas les miracles pour avoir une vue. Cherchons les miracles pour que le Seigneur soit glorifié. Cherchons, enfin. Aimons les miracles pour cela. Enfin, mais ne cherchons jamais, par exemple, n'est-ce pas, à prendre quelque chose de la vue. Il y a des gens qui cherchaient des visions, par exemple, du Seigneur, parce qu'ils ont lu dans certains livres qu'il y a des personnes qui ont eu des visions. Alors, ils auraient voulu voir, n'est-ce pas, voir. Non, chers amis, nous sommes dans cette condition, et c'est là que Dieu nous veut, c'est là que nous lui serons agréables. Plus par la foi nous marcherons, comme nous chantons, n'est-ce pas, plus nous serons agréables à Dieu. Et la foi a de grandes possibilités. Elle dispose d'un pouvoir qui fait pénétrer notre esprit, au-delà des limites étroites du temps et des contingences de ce monde. Et c'est ce que Paul exprime en disant que nous sommes déjà assis avec Christ dans les célestes. Notre vie est cachée là-haut, en Dieu, avec lui. Nous sommes assis dans les lieux. Nous avons été, il est monté au ciel, nous sommes montés avec lui. Notre esprit, notre trésor, il est là-haut, notre banque est là, n'est-ce pas? Voyez-vous? Alors, tout cela, la foi le peut. Alors il faut lui donner, disons, du mouvement à la foi. Il faut lui donner du dynamisme. Elle a besoin d'un pouvoir, d'une puissance, d'un dynamisme. Plus tard, la vue du Seigneur nous sera donnée lorsqu'il viendra nous prendre, mais nous ne pourrons avoir cette vue qu'après résurrection ou après avoir été changés si nous sommes encore vivants sur la terre à son retour. Alors, nous le verrons, ce sera la pleine présence et la vue se substituera à la foi. Et nous en arrivons maintenant à quelque chose que je voudrais éclairer pour vous, c'est ce verset 10. Verset 10 sur lequel j'ai constaté que on aimait bien les glissades. Zut, on passe là-dessus, n'est-ce pas, ou on saute à pieds joints, ou on glisse, on ne s'arrête pas beaucoup à ça. Eh bien, nous allons ce matin nous y arrêter. On ne va pas glisser. On ne va pas sauter. On va rester devant, n'est-ce pas? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Cela, l'apôtre Paul le dit ailleurs, il le dit par exemple dans Romains 14, 10. Voyons-nous, nous allons peut-être mieux encore voir sa pensée s'affirmer. Romains 14, 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparerons tous devant le tribunal de Christ. » Au 14, verset 12, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chacun de nous, il dit cela à des chrétiens, c'est pas dit à des gens du dehors. N'allez pas me dire ça c'est pour les inconvertis, n'est-ce pas? C'est, les épîtres d'une manière générale s'adressent à des chrétiens, non pas à des gens du dehors. Alors, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et puis, nous allons demander au Seigneur Jésus ce qu'il en pense de cette comparution des chrétiens. Apocalypse 2, 23. Bien sûr, l'écriture est une, n'est-ce pas, quand je dis, on demandait à Jésus ce qu'il en pense, et pour venir, n'est-ce pas, à une parole qui est provenue de lui directement. Eh bien, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ah, Seigneur! Dit ça aux églises. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, après, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas au monde, aux églises. Alors, ça, n'est-ce pas, on l'élude. Et ça, je ne peux pas, n'est-ce pas, me rendre complice d'une chose pareille. Et pourquoi ce matin, je mets un certain accent là-dessus, n'est-ce pas, il n'est pas possible que nous laissions cela passer. Alors, la question qui se pose est celle-ci, posons-la. Y a-t-il, avec cette comparution devant le tribunal de Christ pour des chrétiens, y a-t-il contradiction avec ce que nous prêchons, parce que c'est écrit dans Jean, par exemple, 3, 18, celui qui croit en lui, en Jésus donc, n'est point jugé, mais celui qui ne croit point est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, n'est pas jugé. Et puis au chapitre 5 de Jean, le verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il l'a dès maintenant, c'est vrai, il l'a, et ne vient point en jugement, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors pourquoi comparaître devant le tribunal de Christ? Y a-t-il pas là contradiction avec ce que Paul nous enseigne? Eh bien, Paul est inspiré par le Saint-Esprit, bien entendu, et il ne peut pas y avoir contradiction. Si nous avons bien remarqué le verset 18 de Jean, chapitre 3, nous voyons que le mot « juger » est employé deux fois. Et il est dit « celui qui croit en lui n'est point jugé ». Bien, passe pas en jugement. Nous avons vu dans 5:24. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce qui veut dire qu'il est déjà condamné. Ici, n'est-ce pas, le sens dans Jean est un jugement de condamnation. Tandis que dans Paul, il n'est pas question de condamnation. Voilà, ou n'est-ce pas, la contradiction disparaît entièrement. Il n'est pas question de condamnation pour des chrétiens, sauf, nous allons voir pour qui. Mais en tout cas, n'est-ce pas, les versets de Jean signifient, il est passé de la mort à la vie, celui qui croit, il ne vient pas en jugement, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir à ce jugement et qui condamne les hommes impies. Il n'est pas, il ne figure pas là. Ben, il est déjà, le jugement pour lui, c'est celui de la croix. Là, à la croix, le péché a été jugé, a été englouti, et par conséquent, il est mis au bénéfice de cela, et par conséquent, il est, si vous voulez, acquitté. Il est justifié, donc il est acquitté, il ne vient point en jugement de condamnation, et il est passé, il a la vie éternelle, à condition, bien sûr, qu'il marche, bien entendu, qu'il persévère. Ça, le Seigneur l'a dit ailleurs, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ainsi, le jugement du verset 10 intéresse tous les chrétiens, sans aucune exception. C'est le jugement de tous les chrétiens, il manifestera exactement les sentiments intimes et les pensées du cœur. Comme dit l'Épître aux Hébreux, les sentiments intimes, les pensées du cœur. Il manifestera les mobiles secrets, des cœurs, que certaines apparences auraient pu très bien déguiser. Satan s'habille en ange de lumière, et ceux qui ne sont pas purs, sincères et vrais devant le Seigneur, aussi s'habillent quelquefois en ange de lumière. Il y a un déguisement, j'ai eu l'occasion ici, les années précédentes, de parler de cette espèce de parasitisme chrétien. Le parasitisme chrétien, les gens qui sont des parasites, ou alors des gens, n'est-ce pas, qui prennent la couleur du milieu, comme le caméléon, hein. Le mimétisme par conséquent, n'est-ce pas, une sorte de mimétisme chrétien, on prend la couleur, oui, mais ça, il faut le dire, n'est-ce pas, la couleur, on est là, dans les assemblées, on aime chanter, on est bien, et puis on ne s'est pas livré. On n'a pas véritablement, n'est-ce pas, vidé son cœur devant le Seigneur, humblement, avec humilité, accepté le jugement de la croix, si vous voulez, n'est-ce pas, accepté l'œuvre de la croix, et puis alors, on est là sans une réelle conversion, mais on se plaît bien, et puis, même il y en a certains, hélas, qui sont passés par le baptême. On ne peut pas toujours éviter cela. Ils sont passés par le baptême, et qui ne sont pas véritablement chrétiens. Enfin, tant qu'ils sont sur la terre, ils peuvent le devenir. Mais il leur faudra une repentance réelle. Donc, les mobiles secrets seront jugés. Et c'est l'ensemble de la conduite du chrétien. C'est l'attitude générale. Ce sont les œuvres justes qui doivent être là, qui doivent être présentes, qui diront si la grâce de Dieu a été vraiment reçue et si elle a atteint son but. Si elle a fait passer de la mort à la vie et si ce passage a été maintenu par une sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Seigneur. Donc il y a cela. Il y a des gens qui viendront à ce tribunal. Enfin, je pense que ce sera peut-être celui-là, n'est-ce pas? Et qui diront, Seigneur, Seigneur, tu sais, nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Ils avaient donc, alors, ces gens-là reçu le Saint-Esprit pour prophétiser, n'est-ce pas? Je ne vois pas, moi, comment ils auraient pu prophétiser. C'est le Seigneur qui a dit ça dans Matthieu 7. Prophétiser en son nom, fait beaucoup de miracles en son nom. Ils n'ont pas dit que c'était des miracles dus au diable. Non, des miracles faits au nom de Jésus. Ils les ont faits dans un temps, alors, où ils ont appartenu vraiment au Seigneur. C'est la seule explication possible. Il n'y en a pas d'autre. Et alors, je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils sont restés dans l'iniquité. Ils ne se sont pas sortis de l'iniquité, ils ne se sont pas sortis de leur souillure, ils les ont laissés subsister. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je n'ai jamais été en communion avec vous. Je ne suis pas en communion avec vous, retirez-vous de moi. C'est pas l'entrée dans le royaume de Dieu, ça. N'est-ce pas? Par conséquent, ce jugement... C'est pas une simple distribution des prix, comme j'ai dit quelquefois. On a voulu en faire un peu ça, n'est-ce pas, une distribution de récompense. D'ailleurs, il n'y a pas de distribution de récompense. Il y a perte ou maintien de la récompense, c'est tout. Pas de distribution d'une récompense. Il y a eu un peu d'imagination, souvent, dans certains enseignements à cet égard-là. Enfin, restons sur ce que nous dit la parole. Par conséquent, avant tout, avant qu'il soit question de récompense, il est question de savoir si, vraiment, il s'agit de quelqu'un qui est bien passé par de la mort à la vie, qui par conséquent n'encourt plus la condamnation, et qui l'a manifesté par des œuvres justes et par une conduite qui a honoré le Seigneur. La grâce a été agissante, la grâce est vue tout au long, même s'il y a eu des points faibles, même si ça a été un peu une marche en sinusoïde, n'est-ce pas? Bon, ben ça, qui aura eu une marche exempte de cela, hein? Mais cependant, n'est-ce pas, dans la conduite générale, et ça, l'Écriture nous le montre pour certains hommes, comme Moïse, par exemple, on nous dit qu'il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Ben nous verrons que... Il a commis des erreurs. On nous dit qu'Abraham est un homme de grande foi, son épouse Sarah aussi. Pourtant Sarah a ri quand Dieu a parlé une fois. Ah, c'était pas glorieux ça. Enfin, il y a eu des faiblesses. Abraham s'est trompé. Il a fléchi dans certaines circonstances. Mais c'est l'ensemble et l'aboutissement de la vie qui est vu, voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, nous n'avons pas à nous décourager, mais nous avons à savoir qu'il faut progresser. Il faut maintenir en nous la justification par une sanctification. Il y a alors aussi la perte de la récompense, n'est-ce pas? Voilà pour où intervient l'idée de récompense, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Bon, il reçoit une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je pense que cette récompense, c'est tout simplement ceci. Cela va bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, parce que pour le Seigneur, notre fidélité sur la terre, eh bien, elle a été un test, mais dans le fond, d'une façon, si vous voulez, substantielle, n'est-ce pas, elle n'a pas été grand-chose pour le Seigneur, mais ça lui suffit. Tu as été fidèle en peu de choses, n'est-ce pas, tu as montré ta fidélité, bon, eh bien, cela va bien, entre dans la joie de ton maître, et tu recevras le gouvernement... de Saint-Ville, de Diville. Bon, voilà, n'est-ce pas, comment peut apparaître cette récompense. Mais attention, il y a le serviteur qui n'a rien fait et qui est allé cacher sa mine ou son talent dans un coin, n'est-ce pas. Il était honnête, mais il n'a rien fait, il n'a pas fait valoir les biens du maître. Et celui-là, il a sa part avec les infidèles. Et c'était pourtant un serviteur. Il y a aussi, n'est-ce pas, d'autres serviteurs qui n'héritent pas la vie éternelle. Lisez bien les évangiles et vous le verrez. Ainsi, il y aura un jugement pour tous les chrétiens, pour constater d'abord s'ils ont réellement manifesté leur foi en des œuvres justes. Et ce jugement manifestera pour certains leur fausse sécurité du salut. Ceux qui ne seraient pas venus réellement dans une conversion, mais qui auraient usé de ce mimétisme dont je parlais, et ce n'est pas moi seul qui ai parlé de ce genre de choses, n'est-ce pas? Il y a les faux croyants de Finet, par exemple, n'est-ce pas? Il y en a tout un ouvrage. Eh bien, les faux croyants, il y a d'autres auteurs, grands auteurs, hommes de foi, qui ont parlé de cela, n'est-ce pas? De cette fausse sécurité de certains pseudo-chrétiens. Et alors, cela, n'est-ce pas, sera mis en évidence, évidemment. Et ce sera manifesté toute fausse espérance, et puis alors aussi ce qui sera manifesté, ce sera la négligence de ce salut. La négligence de ce salut, et elle est indiquée dans la parole, Hébreux 2:3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Et en nous reportant au chapitre 12 de la même épître, verset 25, nous lisons « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ». Attention au cœur, qu'il soit perméable, soit pas dur. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, nous chrétiens? Nous chrétiens, c'est à des chrétiens que c'est dit. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Tout cela, n'est-ce pas, nous fait apparaître ce qui aura lieu à devant ce tribunal de Christ. Par conséquent, ne prenons pas ces choses à la légère, n'est-ce pas, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. La véritable assurance du salut, il faut l'avoir, il faut que l'Esprit de Dieu dise à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous puissions dire librement « Abba, Père ». Alors, chers amis, recherchez cette vraie assurance du salut, la vraie, que le Saint-Esprit seul peut vous donner, pas à vous, pas à votre petit sentiment. Le Saint-Esprit, donnez à votre esprit une assurance que vous êtes enfant de Dieu, et vivez dans cette assurance-là. Hein, attention, c'est très sérieux, ça. Et cette véritable assurance n'est pas incompatible avec la crainte de l'Éternel et avec le tremblement. Voyez dans Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, C'est à des chrétiens que ce langage est tenu. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, puisque vous avez jusque-là toujours obéi, bon, eh bien, en somme, continuez, je paraphrase un peu pour vous expliquer, continuez de travailler à votre salut. Continuez avec crainte et tremblement, pas à la légère. Pas à la légère, n'est-ce pas ? Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Voilà, chers amis, ce qu'il faut que nous sachions de cette mention de l'apôtre Paul, mais mention qui est corroborée par une déclaration du Seigneur Jésus, nous l'avons vu, que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Pour d'abord que notre vie chrétienne soit jaugée. Es-tu vraiment mon disciple? Ou ne l'es-tu que dans les apparences? Ne l'as-tu été que dans les apparences? Alors, ça, c'est d'abord, n'est-ce pas? C'est d'abord examiner ça. Bon, tu es le disciple, ça va bien, bon et fidèle serviteur. T'as peut-être pas fait grand-chose sur la terre, mais t'as fait quelque chose quand même. T'as tout de même manifesté la foi de ton cœur en quelques œuvres. Tu n'avais pas une grande capacité, parce que le Seigneur a parlé de cela aussi, de capacité. Tu n'avais pas une très grande capacité. Tu n'as pas reçu peut-être une grande mesure de foi. Bon, mais ce que tu as reçu, tu l'as fait valoir. Cela va bien. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Celui qui a 10 villes et celui qui en a 5, il est quand même, n'est-ce pas, ils sont au même titre, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Mais si vous vous êtes allé cacher votre pièce de monnaie, là, n'est-ce pas, les biens du Seigneur, sous un arbre, bien enterré, n'est-ce pas, et que vous alliez après le dire, Seigneur, tiens, je te rends ce que tu m'as donné, tu vois, tu m'as donné ça. Seulement, n'est-ce pas, le Seigneur, lui, il aime retrouver ce qu'il a confié avec intérêt. C'est une image qui nous montre qu'il veut que nous ayons fait fructifier ce qu'il a mis en nous. Et nous le pouvons, par la foi. Ce sera la démonstration que, vraiment, nous avons aimé le Seigneur. Voilà, chers amis, vous êtes avertis ce matin, et par conséquent, faites tout ce qui est agréable au Seigneur. Amen.